Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre programme en français. Vous écoutez Radio SBS. Nous sommes le samedi 8 novembre 2025. Il est 13h et nous allons passer une heure ensemble. Je m'appelle Marianne Murat et on commence avec la rétrospective. Mesdames et messieurs, bonjour, c'est la rétrospective. Que s'est-il passé un 8 novembre? On fait un bond de 27 ans dans l'histoire et on remonte en 98. Le 8 novembre 98, l'accord de Nouméa a marqué un tournant décisif dans l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Né du besoin de réconcilier un territoire meurtri par les affrontements des années 80, il symbolise cet accord aujourd'hui la volonté de construire un destin commun entre toutes les communautés. Mais pour comprendre cet accord, il faut revenir aux origines, la colonisation, les tensions et les luttes qui ont façonné l'identité calédonienne.
Le 8 novembre 1998 marque une date clé dans l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Ce jour-là, les Calédoniens sont appelés aux urnes pour ratifier un texte historique, l'accord de Nouméa. Un accord né du besoin de préserver la paix, 10 ans après les affrontements sanglants des années 1980. Et voici son histoire. Découverte par James Cook en 1774, la Nouvelle-Calédonie est annexée par la France en 1853 sous Napoléon III. Mais l'île était déjà habitée depuis des millénaires par le peuple Kanak, les premiers habitants du territoire. Un an plus tard, elle devient une colonie pénale. Les bagnards s'installent, les Kanaks sont repoussés sur des terres pauvres, la colonisation creuse une fracture durable. Citoyens d'un côté, sujets français de l'autre, soumis au code de l'indigénat. Pourtant soumis à la loi française, ils n'en ont pourtant pas les droits car ce code les prive de la plupart de leurs libertés, de leur voix politique et même du droit de décider pour leurs propres terres. Après la Seconde Guerre mondiale, le régime colonial s'assouplit, les Kanaks obtiennent la citoyenneté française et en 1957 le droit de vote. Mais le déséquilibre demeure. Dans les années 1970, le boom du nickel, dont la Nouvelle-Calédonie détient près d'un quart des réserves mondiales, attire de nouveaux migrants et creuse les inégalités. Les Kanaks deviennent minoritaires sur leurs propres terres et c'est dans ce contexte que naissent les premiers mouvements indépendantistes. En 1984, Jean-Marie Tjibaou fonde le FLNKS qui réclame l'indépendance kanak. En face, Jacques Lafleur et les loyalistes défendent le maintien dans la République. Les tensions montent jusqu'au drame.
3 gendarmes massacrés à l'arme blanche en Nouvelle-Calédonie, 27 autres séquestrés quelque part dans la brousse sur l'île d'Ouvéa, c'est le bilan de l'opération Commando menée très tôt ce matin par les indépendantistes kanak.
Avril 1988, la tension explose. Des indépendantistes kanak attaquent une gendarmerie, 4 gendarmes tués et 27 otages. Pendant 2 semaines, les négociations piétinent, les élections présidentielles approchent en métropole et l'affaire devient politique. 2 semaines plus tard, l'armée donne l'assaut, 19 Kanaks et 2 militaires trouvent la mort. Un drame qui laisse des plaies profondes, mais qui ouvre aussi la voie au dialogue, c'est le début d'une nouvelle étape.
Juin 1988, accord de Matignon, Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur, les 2 ennemis irréductibles autour d'une table, l'amorce d'un processus qui devait déboucher vers la paix. C'était le début du dialogue.
Dans l'ombre du drame, Michel Rocard, Premier ministre, tente de réconcilier les 2 camps. Sous son impulsion, Tjibaou et Lafleur se rencontrent. Le 26 juin 1988, ils signent les accords de Matignon, symbolisés par une poignée de main historique. Ces accords mettent fin aux violences et ouvrent 10 années de paix et de reconstruction.
Poignée de main historique entre Jean-Marie Djibaou et Jacques Lafleur. Nous sommes le 26 juin 1988. Le FLNKS et le RPCR viennent de signer, sous l'égide de Michel Rocard, alors Premier ministre, les accords de Matignon. Ils fixent le statut du territoire pour les 10 ans à venir, jusqu'à l'organisation d'un référendum local d'autodétermination en 1998.
D'ailleurs, en 2011, Michel Rocard revenait sur cet épisode dans une interview passionnante accordée à SBS au micro de Christophe Mallet.
Et ça a duré 6 semaines. Et non seulement on s'est remis à se parler, mais il est devenu possible de convoquer les corps collectifs et ils ont rédigé la paix ensemble. Je servais d'entremetteur et d'arbitre quand il y avait une petite discussion pointue. C'est une paix négociante, c'est la première. Mmh. Alors elle tient toujours.
Ouais, tout à fait.
Pour préserver une paix locale encore fragile, 10 ans plus tard, un nouveau chapitre s'écrit avec l'accord de Nouméa, signé le 5 mai 1998 et ratifié par référendum le 8 novembre. Ce texte reconnaît l'identité kanak à travers de nouveaux signes identitaires, hymnes, devises, drapeaux, noms du pays, ce qui est symbole d'un futur partagé entre tous. Seuls les pouvoirs régaliens, donc la justice, la défense, la monnaie, les affaires étrangères, demeurent exercés par l'État. Ce traité renforce l'autonomie du territoire et prévoit un transfert progressif des compétences de l'État. Son préambule évoque les ombres et lumières de la colonisation, tout en appelant à un destin commun entre toutes les communautés. Ce 8 novembre 1998, plus de 70% des Calédoniens disent « oui à la paix », un moment historique désormais inscrit dans la Constitution française.
Au marché de Nouméa, lieu où se croisent des gens de toutes origines, on commente l'accord qui, dans l'ensemble, semble plutôt bien accepté. Mais que se passera-t-il dans 20 ans ? Caldoches et Kanaks n'ont pas les mêmes réponses.
En 2018, un premier référendum propose aux Calédoniens d'accéder à la pleine souveraineté. La participation est massive, avec plus de 81% des votes, mais plus de la moitié répondent non à l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Deux référendums suivront, en 2020 et 2021, tous rejetant l'indépendance. Mais les fractures restent vives. En 2025, un nouvel accord signé à Bougival ouvre la voie à une Nouvelle-Calédonie au sein de la République, dotée de sa propre nationalité et d'un partage élargi des pouvoirs entre Nouméa et Paris. L'accord de Nouméa a profondément transformé la Nouvelle-Calédonie. Il a ouvert la voie à une autonomie renforcée, à une reconnaissance mutuelle et à une nouvelle organisation du pouvoir. Mais aujourd'hui, les discussions engagées à Bougival rappellent que l'histoire calédonienne reste en mouvement.
Merci beaucoup, Iliana Guillochon.
T'as jamais vu une femme?
C'était la chanteuse Clara Luciani avec son titre La Grenade. Allez messieurs, dames, on marque une très courte pause et on retrouve dans un instant Éric Woerth et Anne Genetté. Les deux politiciens français étaient à Melbourne dans le cadre du groupe d'amitié France-Australie à l'Assemblée nationale française. Ils nous expliquent pourquoi. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cet épisode spécial d'Europa Voice. Nous recevons en studio aujourd'hui à Melbourne deux personnalités politiques. Éric Woerth, bonjour.
Bonjour.
On ne vous présente plus en France, mais ici nous sommes écoutés par des francophones et par des anglophones qui apprennent le français, donc je vais vous présenter. Vous êtes député de l'Oise, ancien maire de Chantilly, ancien ministre du budget, ancien ministre du travail et actuellement, c'est notamment pour ça que vous êtes ici, ce qui nous intéresse, président à l'Assemblée nationale du groupe d'amitié parlementaire France-Australie. Madame Génoté, bonjour.
Bonjour.
Ce n'est pas votre première apparition sur nos ondes. Vous avez déjà été notre invitée, députée de la 11e circonscription des Français établis hors de France, ancienne présidente du groupe d'amitié. D'abord, avant de parler de votre voyage ici en Australie, un mot de ce groupe parlementaire. C'est un groupe transpartisan. Il y a un président, vous, monsieur Wirth, 8 vice-présidents, une trentaine de membres. Quel est le rôle, je vous pose la question à tous les deux, quel est le rôle de ce groupe parlementaire?
Écoutez, d'abord, merci pour votre invitation. Le Parlement français essaye d'avoir des groupes d'amitié avec les parlements d'autres pays du monde. Il y en a beaucoup à l'Assemblée nationale, à peu près 150 groupes, alors plus ou moins actifs. Et l'Australie est évidemment un des groupes très importants de notre Parlement. Ça faisait pas mal de temps qu'il n'y avait pas eu de voyage de parlementaires français en Australie, sans doute pour des raisons d'éloignement, et une vingtaine d'années pour l'Assemblée nationale.
Oui, voilà ce que j'allais dire.
Ouais,
ce groupe parlementaire, ça
ans
fait plus de 20 ans.
Exact. Ouais, ouais. Donc ça fait très très longtemps qu'il n'y a pas eu. Nous avons vu beaucoup d'Australiens à Paris, mais nous n'y étions pas allés comme groupe. Nous y sommes, et le Sénat d'ailleurs a également fait un voyage au mois de septembre. Donc on a essayé de concentrer nos forces. On a essayé d'ailleurs de venir ensemble pour montrer que le Parlement était uni dans l'amitié que nous avons pour l'Australie et ses institutions, et ça n'a pas pu se faire, mais nous témoignons de cela. L'objectif, c'est une sorte de diplomatie, je le dis en présence aussi de l'ambassadeur de France, c'est aussi une diplomatie parlementaire, donc pas active. Nous ne sommes pas le gouvernement ni ministre des Affaires étrangères, et nous ne décidons pas de la stratégie politique française à l'extérieur. Mais nous nous y intéressons. La commission des Affaires extérieures était une commission très importante de l'Assemblée nationale, évidemment, et le fait de lier des contacts puissants, humains, mais aussi techniques, cernent les intérêts de la France.
On avait reçu la ministre des Affaires étrangères à l'époque, Madame Colonna. Elle était venue pour le lancement de la FACEF et de la FACET. On va y revenir, on va parler en détail des relations bilatérales. Madame Génoté, vous êtes venue plusieurs fois en Australie. On vous a interviewé, on l'a dit tout à l'heure, c'était en mars 2022. Donc vous êtes venue à plusieurs reprises, mais jamais dans le cadre de cette amitié franco-australienne. Vous avez dit ça fait 23 ans. Comment on l'explique? Vous disiez qu'il y avait des Australiens en France, mais la France n'était pas venue en Australie. Pourquoi?
Alors merci aussi pour votre invitation. En effet, je suis déjà venue plusieurs fois. Et d'ailleurs, je trouve que vous incarnez un mode de diffusion de l'information extrêmement intéressant qui pourrait être tout à fait inspirant pour le territoire national français. Moi, je viens régulièrement en Australie. Je viens une à deux fois par an, très régulièrement. Et Eric Wirth, notre président du groupe d'amitié aujourd'hui, l'a évoqué tout à l'heure. J'ai présidé aussi ce groupe d'amitié auparavant. Et quand je suis venue en Australie, à la fois comme députée pour les Français d'ici, que je tiens à saluer, et également comme présidente du groupe d'amitié. Donc, si vous voulez, ce sont toutes ces relations interparlementaires qui incarnent les relations, quelque part, entre les citoyens. Chacun, nous incarnons une circonscription, que ce soit nous-mêmes ou nos homologues australiens. Nous parlons à nos concitoyens, et donc nous pouvons, à travers ces échanges, raconter, expliquer ce qu'est la nature de la relation entre la France et l'Australie. Et cette diplomatie parlementaire, elle permet aussi, nous n'avons pas les responsabilités, le même périmètre que nos diplomates, et nous pouvons parfois dire des choses plus facilement, de façon plus ouverte que la diplomatie classique l'exige. Et c'est ça également qui est tout à fait intéressant. Et encore une fois, il faut que cette relation soit très nourrie, soit très solide. Alors pourquoi autant de temps? Certes, il n'y avait pas de déplacement physique, mais il y avait quand même des échanges qui existaient. Nous avons reçu nos homologues australiens à plusieurs reprises, des échanges de toute nature, et moi je les rencontrais à chacun de mes déplacements.
Autre manière d'aborder la diplomatie parlementaire, c'est que nous votons notamment le budget des affaires étrangères. Donc nous nous intéressons aussi aux moyens qui sont consacrés à l'action extérieure de la France.
Il n'aurait pas été judicieux de venir après septembre 2021, au moment de l'affaire AUKUS?
Il aurait été judicieux de venir à tout moment. Il est sûr que l'affaire AUKUS a profondément chamboulé ou chahuté, surpris les autorités françaises. C'était une affaire qui était, le moins qu'on puisse dire, bien engagée, même signée. Beaucoup commençaient à s'implanter à Adélaïde, il y avait beaucoup d'échanges. L'Australie a décidé, puissance souveraine, elle a décidé de changer de partenaire. C'est son rôle. Ce qui a été, je pense, au cœur de l'action du gouvernement français, après AUKUS, après la stupeur passée, après évidemment la colère que ça a pu développer vis-à-vis de nos amis australiens, c'était de retrouver au moins le cours normal de nos relations, d'essayer de passer à autre chose. On a une histoire à écrire avec l'Australie, on a une histoire économique, une histoire culturelle, une histoire sociale, une histoire de sécurité à écrire vraiment. Et donc il faut mettre ça de côté, il faut pas l'oublier, il faut jamais oublier les choses. Il faudra en tirer aussi des expériences. Les expériences, je pense que ça a été fait, mais ce qui compte, c'est le rebond. Comment on rebond et comment on fait rebondir cette coopération fondamentale dans l'Indo-Pacifique qu'est la relation entre la France et l'Australie.
On en est où de ce rebond 4 ans post-crise?
Je pense qu'il est partout, dans tous les domaines. Il a été signé en 2023 une lettre de stratégie expliquant exactement sur quoi pouvait reposer la relation franco-australienne de façon très concrète dans les domaines de l'économie, évidemment dans celui des minerais, notamment minerais critiques, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de la culture. C'est absolument fondamental. Le succès du festival du film français est absolument incroyable. 200 000 personnes qui suivent des films français un peu partout en Australie, c'est assez extraordinaire. Et puis dans le domaine de la sécurité, alors qui est un sujet extrêmement fort, et on a besoin de s'appuyer, nous, France, nous, puissance d'Indo-Pacifique. Nos territoires français sont dans l'Indo-Pacifique, nous aidons l'Australie, et en même temps, l'Australie nous aide. Bref, c'est une coopération qui a tendance à plutôt s'accentuer, si j'en juge l'ensemble des relations qui peuvent avoir lieu avec les entreprises aussi de défense française, mais aussi les opérations de coopération entre les armées.
Alors là, en une réponse, on a abordé plein de points qui tous individuellement sont extrêmement intéressants. Si on rentre un petit peu dans le détail, est-ce que vous utilisez la Nouvelle-Calédonie dans la sécurité, justement, dans la région Indo-Pacifique, la Nouvelle-Calédonie étant le plus proche voisin français de l'Australie?
La Nouvelle-Calédonie, c'est un de nos piliers, c'est un pilier français dans cette zone du monde. Et la Nouvelle-Calédonie est au fond une base de départ, une base de coopération aussi avec l'Australie. Nous avons des moyens militaires, nous avons des moyens matériels. Ils peuvent être utilisés par l'Australie. Nous avons... Par exemple, durant ce voyage, nous avons été reçus par les responsables et la directrice de l'AFD, l'Agence fédérale de police, l'AFP plutôt, et nous avons beaucoup discuté des moyens d'intervention français. On est les seuls à avoir des bateaux disponibles, des hommes disponibles. On pense notamment à la lutte contre le trafic de drogue, qui est préoccupant dans cette zone du monde, un peu partout, mais dans cette zone particulièrement, nous sommes les seuls à pouvoir intervenir et à le faire en collaboration à la fois de renseignement mais aussi d'action. Et donc la Nouvelle-Calédonie, c'est aussi une économie. Et les entreprises australiennes peuvent très très bien s'intéresser à la Calédonie comme les entreprises de Calédonie peuvent intéresser les Australiens. Donc on doit développer tout cela et je pense que les autorités françaises le font avec beaucoup de vigilance et beaucoup d'efficacité.
Si je peux peut-être apporter un point d'illustration de la situation au moment du cyclone qui était passé sur Vanuatu. La géographie fait que la France, sur le plan de la sécurité civile, en l'occurrence, était la première à pouvoir intervenir dans le plus court délai. Après, les forces australiennes sont venues en appui, mais la première sur zone, c'était la France. Et ça, les Australiens le reconnaissent et reconnaissent que cette coopération est extrêmement fructueuse et utile pour la sécurité de cette immense zone pacifique.
Une fois encore, une très courte pause dans cette interview et on retrouve Eric Woerth et Anne Genoté pour la fin de cette première partie consacrée aux relations bilatérales entre la France et l'Australie. À tout de suite.
Vous êtes passionné de films ? SBS On Demand a des centaines de films disponibles, visionnables à n'importe quel moment. Pour le meilleur des films dramatiques, des documentaires, des films d'horreur, des comédies et des films d'amour, allez sur sbs.com.au/on-demand.
Vous avez évoqué tout à l'heure la culture et la transition énergétique. Dans la relation bilatérale entre la France et l'Australie, il y a eu deux nouveaux partenariats de taille qui ont été créés, c'est la FACET et la FACEF pour la culture et la transition énergétique. On est à un petit peu plus d'un an maintenant de création de ces entités. Est-ce que ça a déjà porté ses fruits ?
Alors oui, nous avons rencontré les responsables de la Facette, c'est-à-dire un organisme qui privilégie et renforce les coopérations scientifiques dans le domaine de la transition énergétique. On a vu des démonstrateurs par exemple d'intelligence artificielle sur la manière dont on peut maintenir les éoliennes en mer, enfin beaucoup de choses extrêmement différentes, avec un axe fort qui est au fond évidemment un axe de écologique par principe, et puis l'axe de l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de projets qui sont en cours de constitution, c'est un jeune organisme, ça a eu une année, c'est pas une organisation juridique en plus, c'est pas un truc à la française très lourd avec une organisation juridique, c'est quelque chose d'extrêmement réactif et agile, et qui dont l'objectif est de faire qu'il y ait une collaboration dans la recherche franco-australienne, soit en France, soit en Australie. On peut prendre l'exemple également de coopération plus industrielle, mais qui fonctionne, semble-t-il, plutôt bien. Tout ce qui concerne le offshore en termes d'éoliennes, des entreprises comme Total, des entreprises comme EDF, travaillent avec des entreprises australiennes. Il y a beaucoup à faire dans ces domaines de durables, dans ces domaines de construction au fond d'un monde un peu différent, qui produit son énergie différemment, qui la consomme différemment, qui l'exploite différemment. Nous étions dans le Western Australia, nous étions à Perth, on a vu le ministre de l'énergie, on a vu le ministre de l'énergie également sur le plan fédéral, donc on voit bien que nous, nos entreprises, comme nos scientifiques, ont beaucoup à apporter à l'Australie, et l'Australie a beaucoup à apporter aussi à la France. Et je crois que c'était des potentiels de développement tout à fait incomparables.
Et sur le plan culturel, pour l'autre versant qui est la FACEF, ça nous a permis de mettre en place le concept de résidence d'artistes. Vous savez que les Français ont un certain nombre de résidences d'artistes dans le monde qui sont extrêmement réputées. On pense souvent à la Villa Kujoyama à Kyoto, à la Villa Médicis à Rome. Et bien sur le même principe d'accueillir des artistes et de leur permettre de s'épanouir dans un environnement qui ne leur est pas familier. En l'occurrence l'Australie ici, on espère qu'on aura également des artistes. C'est l'objectif, qui pourront également partir en résidence. Je pense notamment en France, je crois que c'est la ville de Marseille qui a été identifié. Donc voilà, des échanges à travers la culture, c'est aussi une manière de se connaître de façon beaucoup plus approfondie. Et on va vraiment au cœur de ce que chacun nous sommes. Et encore une fois, c'est de nature à renforcer ces liens qui sont indispensables dans un monde géopolitique qui est quand même extrêmement compliqué, particulièrement en Australie, où ils sont sous la pression de deux grands géants qui ne leur rendent pas la vie facile tous les jours.
La lettre que vous évoquiez tout à l'heure, Monsieur Wörth, qui a été écrite en 2023 et d'ailleurs signée de votre main, Madame Genetet, on l'a lu bien sûr, il y avait également comme priorité l'amélioration de la compréhension française de l'Australie. On en est où de ça?
C'est un vaste sujet, parce que l'Australie reste tout à fait bien connue, reconnue et très appréciée pour ses aspects touristiques, indéniablement. Elle reste également de plus en plus connue, d'ailleurs, et à nouveau connue après la période Covid, par les jeunes étudiants ou jeunes professionnels qui viennent ici passer entre 1 et 2 ans en visa vacances-travail. Maintenant, pour aller au-delà et faire comprendre que, par exemple, du côté français, nous avons des expertises techniques, des savoir-faire qui peuvent intéresser l'Australie. Nous avons paradoxalement beaucoup d'entreprises françaises présentes pour lesquelles les Australiens reconnaissent nos savoir-faire en tant que savoir-faire, pas forcément lié au fait que nous soyons français, mais parce qu'il y a des vraies expertises qui leur sont utiles, des vrais savoir-faire industriels ou économiques qui leur sont utiles. Maintenant, il faut aller plus loin et essayer de travailler, c'est notre travail, c'est le travail d'un groupe d'amitié parlementaire aussi, de pouvoir donner envie à des Australiens de venir en France, d'y investir. Nous avons déjà des groupes australiens qui sont présents en France, je pense notamment au secteur de la santé, mais il faut aller évidemment beaucoup plus loin. Et puis, donner toujours envie à des entreprises françaises. Certaines start-up viennent déjà ici, c'est une bonne chose, mais ce travail, il est constant, il passe aussi par l'amitié parlementaire, par tout ce que nos entreprises également peuvent construire, les filiales de grandes entreprises, les entrepreneurs qui viennent de novo créer une structure ici. Voilà, tout ça, ça prend du temps, mais ça se nourrit, on voit que ça ne cesse de progresser. Quand on voit, je crois qu'il y a à peu près un peu plus de 70 000 Français présents sur le sol australien, c'est de bon augure. Il faut poursuivre ce travail qui est encore une fois indispensable.
Oui, entre 70 000 et 100 000. Madame Genetet, quand on vous a interviewé en mars 2022, vous avez dit peut-être que la relation avec l'Australie était prise pour acquise en France. Vous pensez toujours ça ?
Oui, ce que j'ai dit, je ne le retire pas. On pensait que c'était quelque chose d'assez évident. Je pense notamment à tout ce qui a précédé la rupture du contrat AUKUS. Oui, moi en tout cas, je l'avais perçu de cette manière-là. Chaque fois que je suis venue en Australie, la relation du côté français était perçue comme évidente, comme allant de soi. Certes, elle était travaillée, mais je n'ai jamais entendu personne la remettre en question, et imaginant qu'un jour les Australiens pourraient changer de stratégie et se tourner vers d'autres projets. Donc d'où la surprise importante qui a été observée en septembre 2021. Donc oui, je maintiens ce que j'avais affirmé et on voit bien que maintenant nous avons repris langue et nous reconstruisons. Nous sommes repartis, je pense, sur d'excellentes bases et c'est une bonne chose et je pense que nous avons appris, nous devons continuer à apprendre cette expérience. D'ailleurs, à la fois pour l'Australie et pour d'autres géographies dans le monde, il est important que nous arrivions avec beaucoup moins peut-être de certitude et beaucoup d'envie de coopérer avec prudence et une grande écoute et attention à nos interlocuteurs.
On a finalement réévoqué tous les points qui étaient écrits dans cette lettre de 2023, la compréhension française de l'Australie, la réparation des relations bilatérales après la crise d'AUKUS, la coopération bilatérale dans les domaines de la culture, le sport, les énergies renouvelables, on vient d'en parler, les territoires d'outre-mer, on en a parlé également. Est-ce que 2 ans plus tard, vous avez des nouvelles priorités? Le monde a continué à évoluer, il y a des nouveaux enjeux géopolitiques, Donald Trump qui a été réélu, une nouvelle guerre au Moyen-Orient, le réchauffement climatique, le blanchissement des coraux, il n'y a aucune hiérarchie dans tous les exemples que je donne. Est-ce que vous avez des nouvelles priorités qui sont venues s'ajouter?
Je crois que nos priorités, c'est d'apporter une réponse à ce monde dangereux, extrêmement dangereux, cette vaste zone indo-pacifique, qui d'ailleurs n'est pas tout à fait pareil d'un côté comme de l'autre d'ailleurs. Dans cette vaste zone, c'est des enjeux considérables. Et on a besoin de s'appuyer sur les puissances et les pays qui portent les mêmes valeurs que nous. Des valeurs de citoyenneté, de fraternité, des valeurs auxquelles on tient beaucoup, sur lesquelles la France s'est construite et d'autres pays aussi. L'Australie fait partie de cela, c'est une alliée. L'Australie c'est une amie et aujourd'hui on a besoin d'amis pour tout simplement consolider sa souveraineté. C'est vrai dans le domaine commercial, c'est vrai aussi dans le domaine militaire. Tout le monde se réarme. On a besoin de le faire de façon coordonnée. On doit le faire avec l'Allemagne, on doit le faire aussi avec l'Australie. On doit mener des opérations communes, on doit échanger des renseignements, on doit savoir ce qui se passe dans l'espace. Donc nous avons un besoin vital, presque, de collaboration. Alors après, il y a aussi tout ce qui concerne l'économie. On voit bien que l'Australie est souvent orientée vers la Chine, ce qu'on peut comprendre, mais il y a aussi l'Europe. Et la France, comme l'Europe, sont prêtes à travailler avec l'Australie de manière encore plus forte. Regardez la capacité australienne, j'en parlais tout à l'heure, dans l'état de l'Ouest, ce vaste état qui doit faire un bon tiers de l'ensemble du territoire australien, et dont la capitale est Perth, c'est évidemment la richesse en minerais. Cette richesse, elle est située dans un pays démocratique. Elle est située dans un pays qui penche à peu près comme nous, d'une manière générale, même si on peut ne pas être d'accord sur tel ou tel point, et que notre histoire est parfois commune et parfois moins. Mais on doit pouvoir avoir des relations extrêmement fortes dans le domaine de l'approvisionnement en minerais. L'approvisionnement en minerais, ça nous permet, grosso modo, de faire fonctionner une bonne partie de notre industrie. Ça va des véhicules à nos smartphones, en passant par plein d'autres choses, et plein d'autres choses encore dans le futur. Donc on doit établir des collaboration forte. La France est prête à investir. Souvent, les Australiens nous disent ce que nous ont dit les deux ministres, qu'est-ce que vous pourriez faire? Comment on peut travailler ensemble? Nous, on a besoin d'argent. Ils nous donnaient l'exemple de 3 personnes qui ont prospecté dans un endroit qui a dû être concédé par le gouvernement ou par l'État et qui ont trouvé un métal tout à fait rare. À partir de là, il faut de l'argent, passer de cette start-up à quelque chose de plus construit, et il faut des moyens. La France peut aider aussi dans ce domaine-là. Il y a une possibilité de mobiliser des capitaux pour s'inscrire dans l'avenir de cet État et de la prospection minière. Je dirais aussi que lorsque nous participons aux cérémonies patriotiques. Je suis allé à l'Anzac Day, à Villers-Bretonneux, il y a quelques mois, une cérémonie extrêmement émouvante, mais au-delà de l'émotion, c'est le partage des valeurs communes qui s'est exprimé de la manière la plus radicale. C'est qu'il y a des personnes qui ont donné leur vie pour ce que nous sommes. Il y a des jeunes Australiens qui sont venus mourir en Turquie, en France, dans la Somme, juste pour défendre ce que nous voulions défendre et défendre notre territoire. Ça, ce n'est pas rien. Et on n'a pas l'impression l'impression d'ailleurs que ce ne soit rien pour les Australiens eux-mêmes. C'est, je crois, beaucoup. C'est tous les jours la cérémonie au monument aux morts de Canberra. Et donc c'est très très important qu'on puisse rappeler cela, qu'on puisse évidemment après avoir l'attitude et les postures de rationalité économique ou de rationalité politique, mais le décor général de cette rationalité, c'est quand même un lien extrêmement fort. Et ça vaut beaucoup.
Je lisais justement que quand vous êtes allé à la cérémonie à Villers-Bretonneux, malgré les 17 000 kilomètres, malgré le fait que l'événement se passe réellement ici en Australie, vous aviez quand même senti l'émotion en France et vous aviez été étonné du nombre de personnes qui continuaient à venir commémorer et que ça avait été un...
Écoutez, c'est franchement à 5 heures du matin. À 5 heures du matin, donc rares sont les gens qui habitent à Villers-Bretonneux, donc il faut quand même y aller. Donc vous partez très très tôt le matin, vous rendez dans cet endroit, il peut pleuvoir, c'est complètement dehors, il n'y a pas d'abri. Pour y aller, il faut vraiment penser qu'on a quelque chose à y faire. Et le témoignage qu'apportent tous ces Français qui viennent, le témoignage de l'école reconstruite par nos amis australiens à un moment donné dans ce village, mais le témoignage aussi de tous les Australiens qui viennent raconter l'histoire de leur famille en assistant à cela, il est extrêmement, extrêmement émouvant. Et on partage qui est le don de soi. Au fond, ce don de soi, honnêtement, ça relativise beaucoup d'autres malheurs d'aujourd'hui, parfois dans nos sociétés occidentales. Ce don de soi, il a eu lieu et on ne peut pas considérer que ce n'est que l'histoire. Beaucoup de personnes sont nostalgiques du futur. Ben, très bien, mais il faut rattraper le futur. Et le futur, il peut s'inscrire avec les mêmes valeurs, et s'écrire avec les mêmes valeurs que celles que ces jeunes ont défendues à cette époque-là. Et tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui doit trouver une solution et l'Australie fait partie de cette solution pour la France.
Anne Genoté, Eric Werth, merci beaucoup.
Merci à vous.
Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie, la symphonie des éclairs.
C'était la symphonie des éclairs chantée par la merveilleuse Zao Tsagazan sur les ondes de Radio SBS. Nous vous proposons à présent la première partie d'un nouvel épisode de l'Histoire cachée de l'Australie avec Grégory Place et Romain Fati. Ils reviennent sur la jeunesse de John Curtin et son ascension au sein du Parti travailliste.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre série consacrée à l'histoire de l'Australie. On continue aujourd'hui de s'intéresser aux premiers ministres les plus marquants de l'histoire et alors que la semaine dernière on s'est penché sur l'un de ceux qui a gouverné l'Australie pendant quasiment toute la Première Guerre mondiale, on va s'intéresser aujourd'hui à celui qui a fait à peu près la même chose pendant la Seconde. Il s'agit de John Curtin, un autre travailliste. Alors, comme d'habitude, on va retrouver l'historien Romain Fati pour parler de tout ça avec lui. Bonjour Romain.
Bonjour Grégory.
Alors, John Curtin, je fais une rapide présentation de ses premières années. Il a grandi à Melbourne. Il a aussi ensuite vécu dans différentes petites villes de l'État du Victoria. On peut dire qu'il vient d'une famille... plutôt modeste. Son père, d'ailleurs, je crois, est gérant de pub, ce qui explique aussi pourquoi il circule dans différentes petites villes. Il reprend des établissements à droite et à gauche. Et puis au final, assez tôt, il va s'engager auprès du Parti travailliste, et même plus à gauche peut-être encore, puisqu'il va aussi rejoindre un parti qui s'appelait alors l'Union socialiste du Victoria. Et ce qui m'a retenu mon attention dans ces premiers temps, c'est que contrairement aux autres premiers ministres dont on a parlé jusqu'à présent, qui étaient, on va dire, de leur temps, c'est qu'ils avaient quand même des positions ouvertement racistes, défense de la politique de l'Australie blanche, etc. Et John Curtin, eh bien, pas du tout. Au contraire, il est plutôt opposé à toute forme de discrimination, en tout cas de discrimination raciale. Et peut-être justement, en tout cas c'est ce que j'en ai compris, dites-moi si je me trompe, pas à cause de cet engagement très à gauche, voire communiste, qui associe le racisme à une extension du capitalisme. Et pour lui, en fait, tout ça, c'est la même lutte. Est-ce que j'ai bien compris ?
Oui, à grands traits, je pense que ça se tient. J'opérerai une distinction, mais d'abord, je pense qu'il faut... repartir en arrière, comme toujours avec les historiens. Pour le situer, il est né en 1885, de parents irlandais ou d'origine irlandaise. Et donc, il évolue dans la colonie du Victoria, à Melbourne en particulier. Et quand vous dites que ses parents ne roulaient pas sur l'or, ouais, c'est un euphémisme. Hein. C'est vraiment, c'est pas la misère, mais enfin, il n'y a pas beaucoup de sous. Assez tôt, donc, en réalité, le jeune John Curtin quitte l'école. Parce que, parce qu'il faut gagner de l'argent, en réalité, pour subvenir aux besoins de sa famille. Parce que son papa doit arrêter de travailler assez tôt à cause d'une mauvaise santé. Donc vraiment, ce sont des paramètres qui sont pas super. Beaucoup de mobilité, beaucoup de changements, des parents pas très riches. Il doit subvenir aux besoins de la famille parce qu'il y a une fratrie. Et en parallèle de ça, en réalité, même s'il quitte l'école assez tôt, il est très doué. Et bien qu'il commence à travailler de petit boulot en petit boulot, distribuer les journaux, travailler autour de personnes qui écrivent, enfin, des petits boulots ici et là, il lit énormément. Il lit énormément et surtout ce qu'il lit, ce sont des grands textes de théorie socialiste et marxiste, hein. Donc il lit Marx assez tôt, tout ça l'intéresse énormément. Donc c'est un jeune homme qui est politisé. Et politisé par lui-même et qui s'investit dans le mouvement travailliste, si vous voulez, à l'époque. Vis-à-vis de la question, enfin de ce que vous avez soulevé, ça il faut resituer. C'est vrai qu'il est beaucoup moins raciste que la plupart des hommes politiques australiens de l'époque. En fait, si vous voulez, c'est vrai que c'est un internationaliste. C'est-à-dire qu'il croit en l'international socialiste. Déjà, mais aussi il croit en les institutions internationales de sa génération. Il fait partie de cette génération qui a vu le président américain Wilson, ses 14 points, mettre en place la Ligue des Nations. Ligue des Nations à laquelle il contribuera par ailleurs. Il ira à Genève, pareil avec l'Organisation mondiale du travail. C'est un internationaliste. Il pense vraiment que l'intérêt de l'humanité, c'est de travailler ensemble. Mais ensemble, virgule, chacun chez soi. C'est-à-dire qu'il est un peu anti-impérialiste, pro-décolonisation avant l'heure, sans exagérer. En revanche, sa relation aux aborigènes, à l'époque, dans les années 20, comme beaucoup d'Australiens, ils pensent que la seule chose à faire, c'est d'accompagner une race, j'utilise des guillemets évidemment sur ce mot-là, qui se meurt. Et enfin, par ailleurs, il soutient la politique d'Australie blanche qu'on a mentionnée dans plusieurs épisodes. C'est-à-dire que pour lui, non seulement parce que c'est politiquement un suicide de dire on va arrêter la politique de l'Australie blanche, mais il pense réellement que l'Australie est le bastion des Britanniques dans cette région du monde. Donc effectivement, il est beaucoup plus progressiste que d'autres, mais on peut pas s'attendre que dans les années 20 et les années 30, quelqu'un partage, comment dirais-je, un avis aussi libéral qu'on peut l'avoir aujourd'hui, par exemple.
Ouais,
C'est un petit
on peut pas non plus
surprise.
dire qu'il est antiraciste au sens contemporain du terme, mais quand même plus modéré. Ok,
Oui, bon.
merci, merci pour ces précisions. Alors on va avancer un peu dans le temps. Donc, il grandit et il fait ses premiers pas dans le Victoria, ce John Curtin. Mais en fait, politiquement, sa carrière va vraiment démarrer une fois qu'il va déménager à l'autre bout du pays, à Perth. Et c'est là, en tant que représentant de Fremantle, l'un des quartiers les plus sympas de cette ville, il est élu au Parlement donc en 1928 et quelques années plus tard, il va même carrément devenir le chef de file du Parti travailliste. Ça, ce sera en 1935. Et pour en arriver là, il va réussir à se rallier le soutien des différentes branches du parti, notamment de l'aile gauche, mais aussi d'un certain nombre de mouvements syndicaux. Ce que j'ai trouvé intéressant dans ce ralliement de ces différentes personnalités et mouvements derrière la personne de John Curtin, c'est que ce qu'ils ont attendu de lui, c'est pas une rétribution politique. Ils lui ont demandé de prendre un engagement qui n'avait en fait même rien à voir du tout avec la politique.
Oui, arrêtez de boire. On va y revenir. Mais avant, je voudrais reprendre quelque chose que vous avez dit, qui est très intéressant. Vous avez parlé de Fremantle comme un quartier très sympa de Perth. Aujourd'hui, oui, effectivement, c'est un quartier plutôt bobo, chic, mais pas du tout à l'époque. Et c'est pour ça qu'il se fait élire là-bas en tant qu'homme de gauche. Parce que Fremantle, à l'époque, c'est un quartier plutôt prolo, en réalité. Et comment dirais-je, il construit cette carrière. Alors difficilement, hein. Il lui a fallu trois reprises, trois campagnes électorales avant d'être élu. Mais en fait, il est perçu comme un excellent orateur. Il est jeune, il est plutôt dynamique. Et comme il est parti du Victoria parce que professionnellement, ça avançait pas beaucoup. Il faisait partie du mouvement anticonscription pendant la Première Guerre mondiale. Il a fait quelques jours de prison. Parce qu'il s'est pas présenté à l'appel, si vous voulez. Et donc, il part en Australie-Occidentale parce qu'il y a une opportunité professionnelle de devenir l'éditeur en chef d'un journal assez populaire chez les travailleurs. Faut se souvenir qu'à l'époque, il n'y a pas les réseaux sociaux, il n'y a pas l'Internet, et que les gens, même des travailleurs peu éduqués, les gens savent lire et lisent énormément. Tout le monde consomme un, voire plusieurs journaux par jour. Et donc, être journaliste, et il en était très fier. Hein. Même quand il était Premier ministre, il portait son petit badge, enfin son petit pins de l'Association des journalistes australiens. Pour lui, en fait, être éditeur permettait de mettre en lumière les problèmes sociaux et donc le lien entre journalisme et politique, de son point de vue, était évident. Et donc, quand on a un pied ou une main, si vous voulez, dans la presse, c'est facile, plus facile, disons, d'avoir une plateforme électorale. Et effectivement, ça décolle plutôt bien pour lui. Il devient député, Member of Parliament, donc envoyé de sa circonscription de Fremantle dans l'Australie-Occidentale vers Canberra, la nouvelle capitale australienne. Et il se fait repérer assez vite au sein du parti. Parce que c'est un bosseur et parce qu'il parle bien et qu'il utilise les médias, évidemment, puisqu'il est journaliste. Et donc, assez rapidement, dans les jeux de parti qui se font, c'est une époque où la politique australienne est plutôt dominée par la droite, le parti du country, enfin, et les nationalistes, hein, qui s'appellent eux-mêmes comme ça. Et en fait, il y a pas mal de jeux de parti chez les socialistes, enfin, les socialistes, Labour. Pour savoir qui va être le leader. Et il arrive à ce poste-là, effectivement, parce que il promet d'arrêter de boire. Et ça, c'est un point assez important. C'est bien qu'il était assez sportif dans sa jeunesse, c'est pas un homme qui a une santé de fer. Il a quelques problèmes de santé. On se demande s'ils ont été aggravés par l'alcool, et c'est un problème qu'il a depuis très très jeune. Je crois qu'il avait fait cette promesse déjà dans les années 20, il a tenu pendant 5 ou 10 ans, et puis il a rechuté. Et c'est pas un alcoolisme d'un ou deux verres tous les soirs, hein. C'est assez marqué, et ça le dessert. En fait, dès le début des années 30, on l'a pas nommé ministre parce qu'en fait il était de notoriété publique qu'il buvait trop. Et donc, au sein du parti, on lui dit, OK, on veut bien te soutenir pour devenir le leader du parti et donc Premier ministre en cas de victoire électorale, mais il faut arrêter de boire. Et il dit, Banco, on y va, on arrête de boire. Et ça l'a probablement sauvé.
Alors donc il y arrive encore une fois. Enfin, je trouve ça intéressant de voir que voilà, on a un homme plutôt brillant, grand orateur qui apparemment maîtrise parfaitement l'utilisation des médias en tant que politique et dont le seul défaut, bah, c'est pas une position sur tel ou tel sujet, mais bah, un comportement et en l'occurrence l'alcoolisme qu'il parvient à
Et
vaincre.
ça, c'est important de le remarquer, Grégory, parce qu'effectivement, c'est quelqu'un de brillant. Brillant en Australie, brillant pour sa génération, un penseur, un gros travailleur, quelqu'un qui n'était pas du tout destiné à ça. On l'a rappelé, sa jeunesse, une jeunesse plutôt enfin, pauvre, très modeste. Et moi, je me pose la question de savoir, voilà, quand il est jeune, il est dans un milieu où les hommes, surtout, boivent beaucoup. Son père tient plusieurs pubs. Donc, il est exposé à l'alcool très tôt. Faut voir que à cette époque-là, parfois, il était plus sain de boire des alcools que de l'eau qui pouvait être un peu contaminée. On ne savait pas d'où elle venait. Donc, il réussit à s'échapper de son milieu, si vous voulez, mais il en garde quand même quelques caractéristiques, dont en fait aussi son combat pour les travailleurs.
Alors donc, leader du Parti travailliste à partir de 1935. En 1939, bien sûr, c'est le début de la Seconde Guerre mondiale. Et vous le disiez, pendant cette période, en tout cas au début, l'Australie est plutôt dirigée par des conservateurs. En 1935, c'est Robert Menzies, un autre Premier ministre qui a beaucoup marqué l'histoire. On en reparlera sans doute dans un prochain épisode. Et lui, il est très proche, évidemment, de la Grande-Bretagne. Il s'allie à celle-ci et décide, comme elle, eh bien, de déclarer la guerre à l'Allemagne. Sauf que ce Robert Menzies, très rapidement, en fait, il va perdre la confiance de son parti, doit démissionner. Il est remplacé par un autre conservateur qui s'appelle Arthur Fanon. Mais lui aussi, sa majorité, eh bien, est à la merci de deux élus indépendants qui, en 1941, eh bien, décident de le trahir et de basculer du côté des travaillistes. Et c'est donc dans ce contexte, quand même pas mal chamboulé et assez instable, que finalement donc les travaillistes arrivent au pouvoir et qu'en l'occurrence c'est John Curtin qui devient Premier ministre. Ça c'est en octobre 1941. Et ce qu'on peut dire dès à présent, c'est que donc c'est un élu originaire, en tout cas qui représente Fremantle, et c'est encore aujourd'hui le seul Premier ministre de l'histoire australienne à être issu de l'Australie occidentale.
Oui, c'est intéressant de le remarquer. Vous avez raison, Grégory. Avant lui, John Forrest, qui a perdu le leadership à un autre premier ministre plus tard, qui s'appelle Cook, qui était du Parti nationaliste. John Forrest de Western Australia aurait pu devenir premier ministre, mais ça n'a pas été le cas. Et bien plus tard dans l'histoire, Kim Beazley, qui était le leader du parti d'opposition, les travaillistes, pendant la période John Howard. Mais vous avez raison, à ce jour, bien qu'il soit né dans le Victoria, il a quand même exercé la plus grande partie de sa vie professionnelle en Australie-Occidentale. D'ailleurs, c'est là qu'il est enterré de mémoire. Et donc, c'est le seul leader envoyé de l'Australie-Occidentale. Bon, c'est pas si surprenant que ça en termes démographiques, si vous voulez, parce que pendant la plus claire partie du XXe siècle, l'Australie-Occidentale, c'est quand même pas une très grande population. Pour revenir à la période Deuxième Guerre mondiale, elle est extrêmement importante. En fait, vous avez des élections un petit peu avant la guerre et la majorité est assez faible. Menzies arrive au pouvoir. Bon, il part en Angleterre pour le travail en tant que Premier ministre et il perd un peu la confiance de son parti, qui est un parti de composition. Et donc, une des composantes de ce parti libéral, c'est le Country Party, et il se fait remplacer par Fadden. Et là, on est en temps de guerre, hein, depuis Menzies, et le gouverneur général d'Australie, qui est le chef de l'État australien, représentant de Sa Majesté le roi ou la reine britannique, donc, en Australie, voit qu'en fait, il y a une instabilité gouvernementale qui s'installe. Et il consulte les deux indépendants en leur disant, écoutez, si je nomme Curtin du parti politique opposé Premier ministre, est-ce que vous m'assurez que vous resterez loyaux? Parce que moi, en tant que chef d'État, l'instabilité gouvernementale en temps de guerre, basta. C'est pas bon pour le pays. Et donc, c'est ce qu'ils font. Et Curtin, en tant que leader de l'opposition, devient donc Premier ministre. Et c'est un poste qui va lui coûter sa vie, hein, puisqu'il meurt Premier ministre. Mais ça, on aura l'occasion d'y revenir. C'est un poste extrêmement stressant, on l'imagine, dans la situation qu'on connaît. Et la situation qu'on connaît, c'est celle-ci. C'est que le 22 juin 41, les Allemands déclarent la guerre aux Soviets. Donc la guerre change d'aspect en Europe centrale. Et surtout, le 7 décembre 41, les Japonais bombardent Pearl Harbor. Et c'est le début de la guerre dans le Pacifique. Et là, ce qui est très important de signaler, c'est que l'empire japonais est absolument colossal et en très peu de temps, conquiert la grande partie de l'Asie Pacifique et les Australiens ont peur de l'invasion.
On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Dans le prochain épisode qui sera publié d'ici quelques jours, eh bien, nous intéresserons à la période la plus importante de la vie de John Curtin, celle au cours de laquelle il a été Premier ministre de l'Australie, et ce, en plein durant la Deuxième Guerre mondiale. À très vite donc pour un prochain épisode.
Vous écoutez Le Français sur Radio SPS.
Moi, je m'amuse, je danse et je conteste parfois.
Moi, je vis, je...
La nuit, le jour n'existe pas. On est bien loin de ça. S'il te plaît, crois-moi.
C'était le duo Gaëtan Roussel et Adeline Loveau et la chanson « Crois-moi ». Voilà, messieurs, dames, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet ainsi que sur les plateformes de podcast. Votre prochain rendez-vous avec le français, c'est demain, même fréquence, même heure. Je vous souhaite de passer un très bon samedi après-midi. Au revoir, messieurs, dames.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.